Et bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre débat du second tour des élections municipales au Havre. Les électeurs auront le choix entre trois candidats dimanche prochain, puisque dimanche dernier, Édouard Philippe, le maire sortant, a obtenu 43,76% des voix avec sa liste Le Havre. Le communiste Jean-Paul Lecoq a obtenu 33,25% des voix avec sa liste de gauche Mieux Vivre Ensemble au Havre. Et l'UDR Franck Keller a obtenu 15,3% des voix avec sa liste de Rassemblement UDR, RN, Le Havre d'abord, les Havrais toujours. Merci à tous les trois d'être présents ce midi. Et ce débat va s'articuler autour de trois thèmes, la santé, la sécurité et l'économie. On va en parler jusqu'à 13h et on va entrer dans le vif du sujet avec la santé et un petit focus, Célia Kardec.
Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous. C'est un sujet d'inquiétude qui s'est peut-être accentué d'ailleurs avec la pandémie de Covid. Il y a 6 ans, jour pour jour, la France débutait son premier confinement. La santé donc et le nombre de médecins traitants, notamment un peu plus de 22 000 patients en seraient privé au Havre, selon l'Union Nationale des Professionnels de Santé. Au niveau de la communauté urbaine du Havre, c'est près de 16% des patients. Alors comment les attirer? Faut-il les salarier? Renforcer l'offre de formation en lien bien sûr avec le groupe hospitalier du Havre? Beaucoup de mesures sont déjà lancées, souvent avec l'appui de la profession. Pour n'en citer qu'une, le pôle santé 100% LH par exemple, où plus d'un millier de patients en affection longue durée sans médecin sont désormais suivis avec le concours de médecins retraités, service en partie financé par LH Seine Métropole, le Havre Seine Métropole.
Eh bien merci Célia, donc parlons de cette santé en commençant par vous, Jean-Paul Lecoq, où vous proposez notamment sur votre liste l'ouverture d'un centre de santé municipal avec des médecins salariés. C'est l'une des mesures phares.
Oui, c'est bonjour à tous. La question, c'est l'ouverture d'un centre de santé, c'est surtout les médecins salariés. C'est d'ouvrir des postes de médecins salariés, c'est-à-dire de permettre à des médecins, s'ils le désirent, de devenir salariés de la commune du Havre, peut-être même de la communauté urbaine, mais ça se discute avec les autres maires. En tout cas, en ce qui concerne le Havre, on a cette volonté. On a découvert, et c'est un secret pour personne, que les médecins ne veulent plus, pas tous en tout cas, être médecins libéraux, ne veulent pas gérer l'immobilier, ne veulent pas gérer le secrétariat, ne veulent pas gérer les relations bureaucratique avec la sécurité sociale qui s'est aggravée et qui prend beaucoup de temps médical et souhaite que ce travail-là soit fait autrement. Et donc voilà pourquoi on propose de le faire. Vous nous avez qualifiés tous les deux, mais pas Monsieur Philippe, vous avez dit Monsieur Philippe. Moi je vais dire le candidat macroniste. Lui a été Premier ministre il y a 9 ans. Il faut 10 ans pour former un médecin. Ça veut dire que si les décisions avaient été prises il y a 9 ans, l'année prochaine, on avait plus de médecins, en grand nombre, si on avait pris les décisions qui convenaient. Donc, il porte une responsabilité dans cette absence de médecins. Il y avait la question aussi de dire que notre centre hospitalier du Havre, le plus grand de France, pouvait évoluer, et c'est avec Antoine Ruffina qu'on avait commencé à faire évoluer les choses, avec l'universitarisation, pouvait évoluer vers un CHU. Et ça permettait de former des médecins, y compris ici. Et on avait ouvert une première année avant l'arrivée d'Édouard Philippe pour former des médecins en première année de médecine et ouais peut-être
non, peut-être. Je dis juste que la première année de médecine c'est quand j'étais président de la communauté d'agglomération que ça s'est fait. D'accord. Et je vous remercie d'avoir voté pour à l'époque,
mais ceci dit on avait commencé à faire avancer les choses, c'était une dynamique qui a été arrêtée au moment où Édouard Philippe est devenu Premier ministre. On a eu la ministre de la Santé, on avait, et les deux ne cesser de dire il ne faut pas de CHU au Havre. Moi, je pense qu'il en faut un, et je pense qu'on pouvait même avoir un CHU normand qui serait parti sur les trois villes au moment de la réunification de la Normandie. On aurait pu poser ça, d'ailleurs, comme enjeu.
Peut-être qu'Edouard Philippe peut répondre. Edouard Philippe peut répondre justement sur ce sujet. Vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes même pas en faveur de la création d'un CHU sur le Havre.
Non, moi je suis, d'abord, si je peux répondre très rapidement à Jean-Paul Lecoq, qui explique qu'en effet, il y a 9 ans, j'étais Premier ministre. Je voudrais lui rappeler qu'il y a un Premier ministre qui a supprimé le numerus clausus en France, c'est-à-dire la limitation de la formation du nombre de médecins. C'était moi. J'ai supprimé le numerus clausus. Vous devez vous en rappeler, vous étiez député à l'époque, et je suis sûr que vous avez voté pour, parce que c'était une bonne mesure pour former plus de médecins. La deuxième chose, c'est ouvrir des postes de médecins. Je comprends ce que dit Monsieur Lecoq. On a tous envie qu'il y ait plus de médecins. J'ai envie qu'il y ait plus de médecins. Il n'y a pas assez de médecins au Havre. En vérité, il n'y en a pas assez de médecins ailleurs aussi. Vous pensez qu'une solution pour les faire travailler, c'est de les salarier. J'observe qu'au Havre, aujourd'hui, il y a 40 postes de médecins salariés qui ne sont pas pourvus. Ce qui veut dire, je ne dis pas que c'est, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui veulent devenir médecins salariés, en fait, il y a 40 postes au Havre qui sont déjà existants et qui ne sont pas pourvus. Je crois que le problème, ce n'est pas tellement de savoir si les médecins doivent être salariés ou pas salariés. Je pense que le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on attire des médecins. On a fait plein de choses depuis longtemps à la communauté urbaine, dans un, d'ailleurs une forme de, d'union politique qu'il faut souligner. On a fait plus de formation, on a fait plus d'universitarisation à l'hôpital, et ça, on a fait pour les dentaires quelque chose d'extraordinaire, LH dentaire, qui a permis de répondre à la pénurie de dentistes. Mais on a beaucoup à faire. On a aujourd'hui plus de médecins en formation au Havre qu'on n'en a jamais eu. Hein. Vous avez par période de 6 mois, 150 internes. Aujourd'hui, à l'hôpital du Havre, il y a quelques années, c'était 80. Donc de ce point de vue-là, on forme beaucoup plus de médecins au Havre. Mais on doit aller plus loin. Et c'est pour ça que moi, je propose, en s'appuyant sur ce qui existe déjà, trois choses. La première, créer une pépinière médicale, c'est-à-dire permettre à des médecins d'exercer en libéral, c'est vrai, mais sans les contraintes de l'installation, pour pendant 3 ou 4 ans après leur dernière année d'internat. Il y a aujourd'hui une année supplémentaire d'internat, comme vous le savez, qui s'appelle l'année de médecin junior. Mais il faut capter les médecins qui font leur 9e à 10e année d'internat au Havre, ici, et je leur propose une pépinière médicale qui leur permettra d'exercer, de mûrir leur projet dans des conditions qui sont quasiment celles d'un remplacement, comme souvent les médecins généralistes aiment exercer lorsqu'ils terminent leurs études, de façon à les maintenir. La deuxième chose que je propose, c'est de faciliter le recrutement d'assistants médicaux. C'est un dispositif qui existe, qui marche, qui permet de libérer du temps de médecin par médecin, si j'ose dire, et on veut le faciliter. Et puis la troisième, c'est peut-être pas la plus spectaculaire, mais au fond c'est la plus importante, c'est de mettre en place une grande politique de prévention. Parce qu'on a au Havre en ce moment une situation sanitaire, parfois à cause de la difficulté d'accès aux soins, parfois pour d'autres raisons, qui n'est pas satisfaisante. Je pense par exemple à l'obésité. Le nombre d'enfants ou de jeunes mères en situation d'obésité s'accroît très considérablement au Havre. C'est pas une question d'accès aux soins, c'est une question de politique de prévention. Et on doit rassembler l'hôpital, les médecins, les infirmiers, l'éducation nationale, le département, la ville, la communauté urbaine, les associations, toutes ceux et celles qui ont envie d'intervenir en matière de santé, pour qu'ils agissent ensemble et améliorer la question de la prévention. Et pour l'instant, oui, ça n'existe pas assez. Et comme au Havre, on a une tradition de savoir mettre tout le monde autour de la table en matière de santé, je pense que c'est là qu'on obtiendra les résultats les plus importants. C'est ce que je propose.
Et pour la prévention, vous nous refusez depuis des années de faire un observatoire santé-environnement. Alors qu'on vous explique aussi que c'est un des besoins de l'agglomération havraise au regard des pathologies.
On va aussi laisser la parole à Franck Heller sur ce sujet de la santé. Vous rejoignez un peu Jean-Paul Lecoq sur le fait de vouloir transformer le groupe hospitalier du Havre en CHU.
Alors, très clairement, depuis que on a une très forte présence, une très forte présence sur les marchés depuis 6 mois dans le cadre de cette campagne électorale, et il n'y a pas un endroit où on n'a pas rencontré une personne qui nous a dit « j'arrive pas à voir un médecin, j'arrive pas à voir un généraliste, j'arrive pas à voir un spécialiste, je dois partir, parfois je prends des rendez-vous à Paris pour avoir accès à la médecine ». Et j'en connais beaucoup qui ont pu me le dire, et en me le disant, ça fait pas mal d'années maintenant que ça commence à se faire, ça dure, et il n'y a pas de solution concrète. Alors, c'est vrai que le problème n'est pas que local. Il y a eu un numerus clausus qui était présent pendant longtemps. Ça a malheureusement limité très fortement le nombre de médecins. Il a été supprimé effectivement par Monsieur Philippe, mais remplacé par un numerus apertus ça a ouvert, mais c'est insuffisant encore. Faut aller plus loin. Faut supprimer ça. Faut qu'il y ait plus de médecins. Alors c'est pas nous au Havre qui allons décider ça. Hein. Effectivement, c'est gouvernemental. Moi, j'aimerais qu'on reste sur du local. C'est vrai que beaucoup veulent parler de national. Moi, c'est le local qui m'intéresse. C'est la vie des Havrais. Sur le Havre, comment on fait concrètement pour avoir des médecins? C'est compliqué, c'est pas simple, faut les attirer. Est-ce que la ville est attractive suffisamment? Apparemment non, quand on voit les résultats, non. Donc quoi faire? Des petites mesures, des mesurettes pour essayer de colmater? Ça marche pas. Enfin, ça marche pas, ça marchera peut-être un petit peu, effectivement, on en aura quelques-uns, mais pas suffisamment. Salariés des médecins, combien on va les payer? Le médecin en moyenne gagne 120 000 euros par an. La ville va prendre en charge le paiement de salaire de médecins, ils vont travailler combien d'heures? Enfin, pour moi, ça marche pas non plus, c'est pas la solution. La solution qui a marché à Orléans, ça a été transformé l'hôpital en CHU. Ça a marché, pourquoi? Ils avaient exactement la même problématique. Orléans est une ville qui n'avait pas de CHU, avait un hôpital. Et on disait à Orléans, quand ils ont voulu créer un CHU, c'est pas possible, vous avez Tours qui est à 100 km, c'est pas la bonne solution, les habitants ont qu'à aller à Tours. Ils ont dit non, ils se sont battus en 2023, ils ont eu un CHU. Aujourd'hui, les résultats qui ont été annoncés, c'est beaucoup plus d'accès à la médecine. C'est quoi l'intérêt d'avoir un CHU? C'est pas pour se faire plaisir, hein. C'est pour faire en sorte, pour attirer des médecins et attirer surtout des étudiants en médecine. Aujourd'hui, au Havre, nous avons entre 100 et 120 internes. Combien il y en a, M. Philippe?
150. Par période de 6 mois. Bah, écoutez, je vous le dis, vous
vérifiez. Vous disiez 120, vous dites 150. Bon, moi, j'ai pris les chiffres 2023-2024.
Bah oui, mais on est en 2026.
Mais vous avez ces chiffres-là que je n'ai pas, parce qu'ils ne sont pas publiés. Ah. D'accord, disons 150. Combien il y en a à Rouen?
Ah, sans doute plus.
900.
Mais vous n'avez pas échappé qu'il y a 500 000 habitants dans l'agglomération rouennaise.
Mais c'est pas la même ville. Mais,
hein.
c'est vrai que, effectivement, ils ont un CHU. Combien d'étudiants à Orléans? Orléans, effectivement, est plus petit que le Havre. Ils en ont 250. Alors peut-être que ma version est basse, peut-être qu'il y en a plus. L'intérêt, c'est quoi? C'est effectivement attirer des médecins, conserver des étudiants en médecine, qu'ils soient présents, qu'ils soient fidélisés, qu'ils puissent rester après leurs études. C'est une solution, en tout cas, qui a marché à Orléans, et je pense qu'il faut le pousser. Oui, il faut le pousser.
Eh bien, merci Franck. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Et de retour au cœur de notre débat du second tour de l'élection municipale du Havre. Nous sommes toujours avec les trois candidats encore en lice. Édouard Philippe, qui est arrivé en tête dimanche dernier, ainsi que Jean-Paul Lecoq et Franck Keller. Cette deuxième partie va être consacrée à la sécurité, problématique de la sécurité. Et un focus de vous, Célia Karadec.
Oui, au Havre, ce qui ressort des données du ministère de l'Intérieur, c'est que la délinquance est plutôt stable ces dernières années. 123 infractions pour 1000 habitants, taux identique à celui de la France métropolitaine. Au Havre, on compte aujourd'hui une centaine de policiers municipaux armés depuis 6 ans, environ 600 caméras de vidéoprotection et un centre de supervision urbain pour exploiter leurs images en temps réel. La sécurité, c'est aussi bien sûr le partage des routes, piétons, vélos, trottinettes, automobilistes, cohabitent. Des conducteurs qui ont vu débarquer l'été dernier la voiture Lapi, amoureusement surnommée sulfateuse APV par certains, en complément des agents pour verbaliser en matière de stationnement. Et puis enfin, un enjeu qui n'est pas directement entre les mains du maire du Havre, mais que chacun garde en tête ici, la ville reste la principale porte d'entrée maritime de la cocaïne en France.
Eh bien, merci Célia. Donc sur ce thème de la sécurité, Franck Keller, l'une de vos propositions, c'est de recruter plus de policiers municipaux.
Oui, je pense qu'il faut plus de présence policière, effectivement, sur le terrain, visible, faisant de l'îlotage, rassurant les gens. Combien de femmes me disent je ne rentre pas le soir toute seule chez moi parce que j'ai peur d'être agressée. C'est une réalité. Donc plus de présence, oui, recruter des policiers municipaux, mais pour ça il faut être attractif, il faut vraiment soutenir la police, il faut faire en sorte qu'ils se sentent accompagnés, aidés et leur donner vraiment les moyens d'y arriver. Moyens, de quoi je pense? Présence policière, donc 150 policiers municipaux en plus pour faire de la présence véritablement, augmenter la fréquence des rondes. Il y a des quartiers, beaucoup de gens me disent, on ne les voit pas, on ne voit pas les policiers, ils sont peu présents. Plus de présence la nuit aussi. On sait que la nuit est un moment où les gens se sentent moins en sécurité, où il y a plus d'agressions, où il y a plus de violences, où il y a des gens plus alcoolisés, par exemple. Donc, plus de présence la nuit. Installer des caméras de vidéosurveillance plus importantes et plus performantes. Plus importantes pour quelles raisons? Parce que pour que ça marche, les caméras de vidéosurveillance, il faut qu'il y ait un maillage de terrain. Il faut que lorsqu'un délinquant est vu sur une caméra, qu'il puisse être suivi par la caméra d'après. Sinon, il disparaît dans la nature et on ne le voit plus. Donc, il faut un maillage. Le maillage est la seule et vraiment la raison principale de l'efficacité de la vidéosurveillance. Et des caméras performantes aujourd'hui avec l'IA. Certaines villes l'ont mis en place, ça marche bien, ça détecte, ça aide les gens qui sont sur les centres de visionnage à repérer les personnes à surveiller. Plus de présence la nuit, hein, je disais plus également d'éclairage le soir. Bien entendu, c'est important. Mais ce qui est important, c'est cette volonté de plus de fermeté, plus d'accompagnement. Je trouve que les policiers ne sont pas assez présents, pas assez visibles. Et ça, c'est un élément important d'avoir cette visibilité et de rassurer la population. Donc voilà sur la partie sécurité. Sur la partie, vous parliez de circulation, trottinette électrique. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent trottinette, ils roulent n'importe comment, ça va dans tous les sens, ils grillent les feux rouges. Et d'autres qui me disent, oui, mais moi, j'en ai besoin, je suis jeune, je trouve que c'est bien. Donc, j'estime que c'est pas moi de décider, c'est pas la mairie de décider. Donc, moi, je ferais bien un référendum municipal et c'est les habitants qui disent stop. Ou encore, sur la partie stationnement.
Alors, on va peut-être faire répondre un petit peu Édouard Philippe. Je crois qu'Édouard Philippe, sur les caméras, vous êtes d'accord qu'il en faut un peu plus?
Ouais, on a installé des caméras de vidéo protection depuis longtemps au Havre. Quand on a commencé à les installer, d'ailleurs, elles ont été très critiquées par certains. Elles se sont aujourd'hui assez largement imposées et en vérité, les Havraises et les Havrais nous en demandent plus. On a 600 caméras qui sont aujourd'hui en utilisation. Moi, je propose de passer à 1 000 000 de caméras. Pourquoi 1 000 ? Pas parce que c'est un chiffre rond, mais parce que je pense que compte tenu de nos moyens, nous pouvons assez largement équiper la ville et passer à 1 000 caméras, c'est raisonnable, finançable. Mais je propose surtout qu'on les utilise autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agents de la ville qui passent leur journée et leur nuit à observer ces caméras de façon à repérer des choses et à intervenir en appelant la police municipale ou la police nationale. Je pense qu'on gagnerait à créer un nouveau centre de supervision urbain. Et la proposition que je formule, c'est de faire un centre de supervision urbain qui soit commun avec la police nationale et avec l'exploitant des transports publics au Havre, LIA. De façon à ce que on puisse mieux gérer les situations de crise, mais surtout avoir un continuum de surveillance qui soit et de protection plus exactement qui soit beaucoup plus efficace. S'agissant de l'augmentation du nombre de policiers municipaux, je suis évidemment favorable. J'observe que ça n'est pas simple de recruter des policiers municipaux. C'est facile de dire qu'on va en recruter plus, mais c'est pas toujours facile. Les recruter, ça va. Il faut ensuite les conserver. Et parfois, il y a d'autres communes qui viennent nous qui viennent proposer des emplois à ceux qui sont déjà vrais.
En place.
Et moi, je propose l'installation d'un deuxième poste de police municipale. Aujourd'hui, il y en a un en Villebasse. Je propose l'installation d'un deuxième poste de police municipale au Mont-Gaillard, à Sainte-Catherine, de façon à ce qu'il y ait une capacité de présence et de réaction renforcée s'agissant de la police municipale. On a déjà identifié le lieu, je l'ai déjà proposé. C'est dans l'ancienne bibliothèque du Mont-Gaillard, puisqu'elle va se déplacer pour être à la fois plus grande et plus ouverte. Et donc, on a là quelque chose qui est rapidement susceptible d'être mis en place.
Jean-Paul Lecoq, vous êtes plus pour mettre l'accent sur la prévention et la médiation?
Bah oui, moi, je pense qu'il faut réinventer la protection des Havrais et des Havrais. Et quand on va dans les quartiers, la première chose que nous disent les mamans, c'est que leurs enfants ont peu d'activités et que en matière de prévention, c'est aussi ça. C'est aussi proposer aux jeunes des activités l'été, des activités le soir, des activités particulières en fonction de la météo, l'utilisation dans les quartiers des bâtiments publics pour pouvoir porter les choses. Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il valait mieux avoir des éducateurs que des policiers. La police, c'est en ultime recours. Et puis, il y a la façon d'utiliser les policiers. Moi, je suis un partisan de l'îlotage. Je suis un partisan du fait que les policiers ne passent pas dans un quartier pour contrôler à chaque fois qu'ils y sont les jeunes qui sont au pied de l'immeuble, mais que ceux qui passent dans le quartier connaissent déjà les jeunes et ne vont pas les contrôler parce qu'ils savent qu'ils sont chez eux. Ils sont devant chez eux et que c'est pas ceux-là qui poseront problème là où ils sont. Et qu'on inverse un petit peu les choses. Et évidemment, avec la police, mais comme nous, on veut prendre le pouvoir pour le rendre aux gens, eh ben, c'est avec les gens qu'on va voir s'il faut des policiers municipaux en nombre supérieur. Pour l'instant, le nombre de postes ouverts n'est pas couvert. Et donc, on va déjà commencer à couvrir les postes qui sont ouverts. La question des caméras, elle est posée aussi. Et c'est avec les habitants qu'on tranchera cette question des caméras. Il y a des endroits où les gens peuvent considérer que c'est pas utile. J'ai vu plein de cours d'école, etc., qui n'étaient pas forcément protégés par des caméras. Et je pense que là, le patrimoine communal, c'est pas le domaine public, c'est le domaine privé de la commune. Lui, il doit être protégé par des caméras. On n'a pas à aller boire un coup dans une cour d'école, on n'a pas à aller utiliser les espaces sportifs, etc. Et donc, il faut veiller à protéger ces installations municipales. Voilà, et puis je propose et contrairement à M. le Premier ministre, moi je propose qu'on ait des commissariats mixtes. C'est-à-dire qu'on y est, que les gens, quand ils ont un problème de sécurité ou quand ils veulent alerter sur un problème de sécurité, ils vont dans un poste et ils ont soit un policier municipal, soit un policier national, soit un médiateur. Et c'est en fonction du sujet posé, eh ben, ce sera le médiateur qui ira, ce sera le policier municipal ou ce sera la police nationale qui interviendra. Et qu'on ait des conventions comme ça avec la police nationale et qu'on mette à la disposition des gens, des médiateurs, mais qu'on ne renvoie pas les gens, c'est pas nous, c'est là. C'est pas, non, il faut, c'est compliqué d'aller déclarer un problème de sécurité. Bah, un accueil au plus près des gens dans les quartiers et on envisage d'utiliser justement cette maison des habitants que l'on a dans notre programme pour justement le plus possible dans les quartiers avoir cette question de sécurité. Donc la question de sécurité, c'est la prévention et puis c'est aussi ensuite l'action collective. Sur le stationnement, je voudrais seulement dire, poser très la rapidement. Question à monsieur le président de l'hôpital, mais on a des tarifs complètement aberrants entre Flaubert et presque du simple au double et mono. On a cette, nous on propose d'avoir une demi-heure gratuite parce que les commerçants nous le disent. que ce serait bien pour le commerce. Et puis les restaurateurs nous expliquent qu'ils aimeraient bien que les repas soient finis jusqu'à la fin et que 14 heures pour redémarrer. Et donc on veut discuter aussi avec les différents acteurs pour adapter les temps de stationnement au lieu et faire en sorte que à la fois les clients aient envie de revenir dans les commerces de centre-ville, que les professionnels puissent travailler. Je pense à la plage où le parking dès 7 heures du matin est plein et il n'y a personne qui peut stationner quasiment sur ce parking. Et donc, il faut repenser le stationnement dans ce domaine. Et puis, pour éviter la voiture, on propose aussi la gratuité du transport en commun.
On va pouvoir y revenir juste après. On va d'abord marquer une petite pause et on revient pour notre dernière partie de ce débat. À tout de suite. Et dernière partie de notre débat du second tour des élections municipales au Havre avec les trois candidats encore en lice, Édouard Philippe, Jean-Paul Lecoq et Franck Keller. Une partie consacrée à l'économie et au développement de la ville du Havre et avec bien ce petit focus réalisé par Célia Kardec.
Et quand on pense économie, on pense chiffres. Alors allons-y, d'abord un mot sur la démographie. Le Havre comptait au 1er janvier 2023 près de 167 000 habitants. C'est 3500 de moins qu'en 2017, nous dit l'INSEE, qui compare toujours sur 5 ans. Le Havre, bassin d'emploi, le taux de chômage est le plus élevé dans la région, un peu plus de 9% en fin d'année dernière. C'est environ 2 points de plus que la moyenne nationale. Et le taux de pauvreté y est de 23% contre 15% au niveau national. L'économie, c'est bien sûr la mer, pion de conteneurs, transit par Aropa, le grand port de l'axe Seine. On pense aussi bien sûr aux grandes industries, filière relancée récemment par l'éolien en mer et l'arrivée de Siemens Gamesa au Havre. D'ailleurs, ne dites plus Le Havre, mais LH, la cité océane visitée par plus de 2 millions de touristes en 2024. On y vient pour ses œuvres d'art en ville, sa plage, ses musées, sa transat. On y fait escale aussi, 138 paquebots attendus cette année, plus de 400 000 passagers qui découvriront notamment bientôt un nouveau terminal croisière.
Eh bien, merci Célia pour ces précisions. Alors, comment un maire peut influencer le tissu économique de sa ville, attirer les entreprises? Édouard Philippe, comment on fait?
Alors sur le développement économique à vrai, au Havre, il y a traditionnellement quatre moteurs économiques. Le premier moteur, c'est le port, c'est l'identité de la ville, c'est pour ça qu'on a construit le Havre, hein, c'est parce qu'elle est un grand port. Et le moteur portuaire va bien, au sens où les investissements publics et privés sont massifs. Les acteurs privés du transport maritime font confiance au Havre. J'observe que Hapag-Lloyd a pour la première fois de son histoire pris des parts dans un manutentionnaire au Havre et a triplé son trafic depuis qu'il l'a fait. J'observe que MSC fait des investissements absolument majeurs sur le port et a décidé d'installer son siège français au Havre, ce qui constitue une double bonne nouvelle. Et que l'objectif des 5 millions de conteneurs traités au Havre est un objectif que nous allons enfin atteindre, probablement d'ici 2029. Je pense que de ce point de vue-là, si on rajoute les travaux sur la Châtière qui doivent permettre de développer le report multimodal, on a en termes d'emploi portuaire, je vous rappelle qu'il y a un recrutement d'ouvriers dockers assez considérable en ce moment. En termes d'emploi portuaire, de trafic portuaire, les choses sont de ce point de vue plutôt positives. Il y a deuxième moteur qui est l'industrie, qui est plus en difficulté aujourd'hui, avec des investissements qui se ralentissent, pas seulement au Havre d'ailleurs, c'est vrai à Dunkerque et c'est vrai à Marseille pour les grandes places industrielles ou portuaires, mais aussi au Havre. Et ça, c'est plus inquiétant. Ça a beaucoup à voir avec les déterminants de la compétitivité française. Mais on a un rôle ici pour mieux relier la zone industrielle au reste de la ville. C'est une des raisons pour lesquelles je propose un dispositif que j'appelle Mobizip, qui permet de rejoindre plus facilement la zone industrielle et d'accompagner les industries qui souhaitent investir ici et se développer. On a eu quelques très beaux succès. On a quelques entreprises industrielles qui vont bien, mais on a un énorme travail à faire. J'observe aussi le développement de la filière drone à côté de l'aéroport, qui est assez prometteur. Le troisième moteur, c'est le tourisme. Et ça, c'était pas acquis, parce que pendant longtemps, on n'a pas pensé que le Havre pouvait devenir une destination portuaire. C'est le cas aujourd'hui, vous l'avez dit, 2 millions de touristes et une industrie touristique qui se développe, qui ne vient pas se développer au détriment du portuaire ou de l'industriel, mais qui se vient en complément, ce qui est bien, parce que ça crée des emplois qui sont complémentaires. Le quatrième moteur, c'est le commerce. Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a une transformation assez radicale des habitudes d'achat par nos concitoyens. Beaucoup plus de colis, beaucoup plus d'achats sur Internet. Alors, il y a certains quartiers commerciaux qui vont moins bien au Havre. Il y en a d'autres qui se développent. On a vu dans le quartier Danton un redéveloppement commercial. On observe dans la rue de Paris un redéveloppement commercial. On voit au Doc des succès en matière de commerce. Mais il y a d'autres quartiers dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué. De toute évidence, entre Coty et le Rond-Point, il y a une vraie difficulté. Comment est-ce qu'on peut accentuer ça? D'abord, on peut accentuer ça en ayant une politique qui est favorable aux investisseurs qui font le choix du Havre. En essayant de les convaincre de venir s'installer ici. On a obtenu de bons résultats de ce point de vue. Il faut qu'on développe l'offre de formation, que ce soit l'offre de formation supérieure ou l'offre de formation technique quand elle n'est pas d'enseignement supérieur. Développer le pôle universitaire au Havre, c'est absolument indispensable. 15 000 étudiants au Havre aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant. Et on continue avec des perspectives intéressantes, le déménagement de l'IUT, l'arrivée de l'École nationale des arts et métiers, plus le développement de ce pôle universitaire. Et puis d'autres types de formations. Parce que c'est très bien le pôle d'enseignement supérieur, mais il y a d'autres formations qui sont nécessaires. Je pense par exemple au succès de l'école de production, au succès de l'école 42, qui est de l'enseignement supérieur. On a là des éléments qui constituent une offre plus favorable pour le développement économique. Mais on a beaucoup à faire encore, parce que convaincre les gens d'investir ici, convaincre les gens de s'installer ici, convaincre des emplois de service et des entreprises de services de venir développer leurs activités ici. C'est beaucoup lié au développement du ferroviaire, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Alors, Franck Keller, sur cet aspect économique, parmi vos propositions, il y a le fait de privilégier le commerce de bouche ou les commerces locaux en centre-ville.
Alors, sur l'aspect, effectivement, commerce, nous avons de plus en plus de commerces qui ferment, malheureusement, et ça partout, dans les différents quartiers du centre-ville, des commerces ferment de plus en plus, hein. Nous, on pense qu'il faut les aider, qu'il faut les accompagner et que la première chose qu'il faut faire, c'est faciliter l'accès et la venue des consommateurs, des gens qui viennent acheter. Et comment on fait cela? En faisant en sorte qu'ils puissent stationner, qu'ils puissent se garer plus facilement. Donc nous, c'est arrêter la suppression des places de stationnement, premièrement. Deuxièmement, c'est le samedi, c'est faire en sorte que le samedi après-midi soit gratuit. Stationnement gratuit le samedi après-midi. Pourquoi l'après-midi et pas toute la journée? Parce que pour éviter qu'il y ait des voitures ventouses qui viennent le vendredi soir, qui se garent et qui bougent plus jusqu'au lundi. Donc c'est pour ça qu'on ferait le samedi après-midi gratuit. Et puis on arrête, on met à la poubelle cette sulfateuse APV, effectivement, vous l'abordiez tout à l'heure. Nous, on l'arrête catégoriquement dès le lendemain de l'élection. On préfère qu'il y ait plus d'humains, plus de présence, les gens qui ne paient pas leur stationnement, qui soient sanctionnés, bien évidemment, mais qui puissent avoir une appréciation par des agents sur ce qui est acceptable et pas acceptable. Donc ça, c'est le premier point. On privilégie, oui, le commerce de bouche. Commerce de bouche, pourquoi? Parce que c'est des commerces de proximité qui animent une ville, qui animent un centre-ville, qui font vivre des quartiers. De plus en plus, ils ferment malheureusement, et on voit de plus en plus de commerces communautaires, on va dire, allez, je simplifie, mais on voit le quartier du Rond-Point qui se développe de plus en plus, et on sait que beaucoup d'entre eux sont là pour blanchir de l'argent. Donc nous, on veut mettre en place un droit de préemption, comme ça se passe dans un certain nombre de communes, privilégier des activités du local, du commerce de bouche, etc., plutôt que d'avoir des commerces qui ne sont pas intéressants pour les Havrais et qui ne sont pas utilisés pour les Havrais. Donc ça, c'est cette partie, on va dire, commerce de proximité.
C'est-à-dire que vous préférez interdire une boucherie halal et privilégier une boucherie?
C'est pas ça, c'est du cas par cas. C'est le nombre, en fait. C'est le nombre qui fait la différence.
C'est un cas, là.
Mais c'est le nombre qui fait la différence. Effectivement, quand on a 15 boucheries halal, oui, ça pose problème. Et quand on a plus de boucheries traditionnelles, oui, ça pose problème. Donc oui, on fait des choix et on les assume. Sur la partie entreprise, ce qu'on veut, c'est aider les jeunes entrepreneurs, aider ceux qui veulent développer des entreprises et qui ont parfois des bonnes idées, mais qui savent pas comment faire la comptabilité, comment faire le développement, le numérique. Donc, ce qu'on se propose de mettre en place, c'est le Havre Lab, c'est-à-dire un incubateur havré de personnes qui veulent créer des entreprises, qui pendant 2 ans seraient hébergées gratuitement et auraient des moyens à disposition, genre standard téléphonique, genre imprimante, des choses qui coûtent cher pour des gens qui démarrent et que la ville peut mettre à disposition, et en plus les accompagner avec des conseils donnés justement sur comment faire de la compta, sur comment communiquer, sur comment faire en sorte de chercher une clientèle, et ça pendant une durée de 2 ans. 2 ans, aider ces personnes qui veulent se lancer et voir effectivement, après au bout de 2 ans, ils doivent partir, s'installer et voler de leurs propres ailes. Si ça a marché, après si ça n'a pas marché, c'est la vie, c'est d'autres personnes qui doivent les remplacer, il faut que ça tourne, mais en tout cas on veut aider ces jeunes personnes, ces personnes tout court, qui veulent créer des entreprises, développer, en essayant, et ça c'est un parti pris, d'inciter de plus en plus sur la partie nouvelles technologies, intelligence artificielle, et on aurait bien que Le Havre soit quelque part une des villes moteurs, emblématiques sur ces sujets-là.
La CCI, ensuite, fait ça.
Pardon ? Non, la CCI fait pas ça. La CCI fait des choses, effectivement, mais la CCI n'est pas assez moteur, n'est pas assez précise, n'est pas assez, comment ça s'appelle, moderne pour les accompagner. La CCI a un fonctionnement qui est souvent très administratif. Ils sont bien pour délivrer des cartes professionnelles, pour un certain nombre d'actions administratives, mais sur ces sujets qui sont plus modernes, le monde a changé. Et c'est CCI qui avait un vrai rôle, qui pouvait ressembler il y a quelques années, l'ont plus aujourd'hui. On a besoin de gens qui sont plus tournés vers les nouvelles technologies, vers beaucoup plus modernes, et c'est pas le cas, malheureusement. Je le constate trop fréquemment et on me le dit.
Alors on va juste aussi donner quand même un peu la parole également à Jean-Paul Lecoq sur cet aspect économique.
La mesure principale, je ne l'ai pas encore donnée. Hein.
Alors dites-moi ça rapidement, très rapidement.
Et pour le tourisme et pour le développement économique, la mesure principale, c'est le transport, c'est le TGV, c'est les lignes grande vitesse, plutôt que... Enfin, quand on voit la distance qu'il y a en train entre Paris et Le Havre, aujourd'hui, c'est 2h20, 2h25, 2h30, parfois 2h50, 2h15 au mieux.
Mais là, c'est trop long, c'est trop loin. Vous parlez d'une liaison d'une heure.
Exactement. C'est pas moi qui en parle. Moi, je ne fais que reprendre ce qu'a dit le président de la République en 2009. C'est Nicolas Sarkozy qui l'avait annoncé en 2009. Regardez les différents articles de l'époque. Alors, il y avait deux versions. Il y avait la version directe en une heure. Et il y avait la deuxième version qui était en 1h15 en s'arrêtant en Rouen. Effectivement, ça, c'était la promesse qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2009. Et moi, pour moi, c'est un chantier qui est majeur. Pourquoi? Quand on compare avec les autres grandes villes de France, quand on compare avec Lille qui a la même distance de Paris que Le Havre, c'est 58 minutes. Quand on compare avec Rouen, c'est une heure. Quand on compare, enfin, toutes les villes ont un TGV. Dijon a un TGV, Rennes a un TGV, Reims a un TGV, toutes les régions ont un TGV. Il n'y a que, malheureusement, la Normandie qu'il n'y en a pas. Et ça, on en crève, malheureusement. Parce que le tourisme, en termes de tourisme, si on devenait la première ville de France la plus proche de Paris en termes de distance, ça amènerait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de Parisiens qui viendraient passer leur week-end, Parisiens ou autres. Mais en tout cas, en termes de tourisme, c'est extrêmement important. Et en termes d'économie, pour finir, par rapport à ce que vous disiez, sur la partie économique, des entreprises pourraient venir, qui sont en région parisienne aujourd'hui, pourraient s'installer au Havre. Ça serait ce qu'on appelait le Grand Paris, ce que Nicolas Sarkozy appelait le Grand Paris. Pourquoi? Parce que le coût du foncier serait moins cher. On a 25% de taux de chômage en plus au Havre que dans le reste de la France. Les gens qui cherchent du travail pourraient faire des allers-retours à Paris plus facilement.
Laissons répondre quand même Jean-Paul Lecoq sur ce sujet. Vous parlez, hein, vous aussi, d'ailleurs, du désenclavement ferroviaire du Havre.
D'ailleurs, quand j'écoute ce petit dialogue entre Édouard Philippe et Franck Keller, je me dis qu'ils devraient faire du covoiturage et puis discuter de ça pour échanger et se convaincre mutuellement. Moi, je pense que la question de la ligne ferroviaire, elle est essentielle. Et je pense vraiment que se retrouver aujourd'hui dans la situation qu'on était il y a 25 ans, c'est un pur scandale. Et souvent, on dit Le Havre a eu la chance d'avoir un Premier ministre, pourrait avoir la chance d'avoir un président de la République, s'il vous plaît. Le Havre a pas eu de chance parce que personne s'est intéressé au Havre. J'écoutais tout à l'heure le Premier ministre expliquer que le port du Havre allait bientôt avoir 5 millions de conteneurs. Il faut se rappeler que quand il était Premier ministre, il avait été oublié dans les corridors européens, le port du Havre. Et donc, le gouvernement avait oublié de défendre le Havre.
Et Monsieur Lecoq, qui a fait
à ce moment-là,
qui a fait en sorte que Aropa se fasse?
Non, mais
qui a
moi,
fait
je
en
vous
sorte que le siège d'Aropa soit au Havre?
Monsieur
Lecoq, qui a fait en sorte que le siège d'Aropa soit au Havre? C'est un acte.
Moi, je ne vous ai pas interrompu, c'est moi.
Moi, je vous interromps puisque vous dites quelque chose qui n'est pas vrai.
Mais si, c'est vrai.
Bah non,
c'est vérifiable. C'est vérifiable. Alors, peut-être, vous allez dire que c'est pas vrai. 15% de taux de chômage il y a 25 ans, 15% de taux de chômage aujourd'hui. Pas vrai?
Non.
Vous avez dit qu'il y a des industries qui veulent s'installer au Havre. Je peux le citer.
C'est pas vrai? Le taux de chômage au Havre, c'est 9%. C'est 2 points au-dessus de la moyenne nationale, c'était 4 points
au-dessus. Air Product, QR, qui voudraient s'installer sur la zone industrielle et portuaire. Pourquoi elles ne s'installent pas? Pourquoi elles ne s'installent pas? Parce qu'il n'y a pas l'énergie suffisante pour s'installer.
Ce n'est pas vrai?
Mais si, c'est vrai. Et celui qui a fermé la centrale thermique avant de se demander si à un moment donné, pour l'évolution industrielle, il y avait assez d'électricité, il y avait assez de câbles pour amener la quantité d'électricité nécessaire au Havre, c'est Édouard Philippe, Premier ministre. Donc à un moment donné, il faut assumer ses actes, alors qu'il y avait un électricien au Havre qui expliquait au maire temporaire que ce serait dommage de fermer la centrale thermique tout de suite, même si je défendais l'idée que le charbon doive s'arrêter et que tout ce qui est carboné doive s'arrêter, mais pas tout de suite, le temps qu'on n'avait pas la certitude de ne plus avoir besoin de cette énergie. Et à l'époque, on parlait de l'électrification du port, et le maire temporaire expliquait que pour un paquebot, il fallait... vous comprenez, un paquebot, c'est comme une ville de 10 000 habitants, et donc, vous comprenez, il faut beaucoup d'énergie et tout, et en même temps, il disait ça, vous, vous fermiez la centrale thermique, et lui, il disait, on peut pas mettre l'électricité sur les quais parce qu'on n'a pas l'énergie. Je referme la parenthèse. Et puis, la ligne nouvelle Paris-Normandie, elle est posée. Tous les industriels que j'ai rencontrés, tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, comme moi, vous avez rencontré le MEDEF et tout, tous disent c'est un handicap d'attractivité économique au Havre.
Oui,
quand vous allez dans les quartiers, les gens vous expliquent que leurs enfants ont fait des études. Parce que oui, au Havre, il y a des enfants qui font des études, qui ont des diplômes d'ingénieurs, qui ont du haut niveau. Et les parents disent ils sont obligés d'aller travailler à Paris et dans l'Île-de-France parce qu'il n'y a pas au Havre les ressources nécessaires en termes d'emploi pour utiliser leur diplôme.
Mais c'est pour ça qu'on se bat pour améliorer la desserte
ferroviaire. Vous parliez aussi de l'université. Nous défendons aussi l'idée que l'université publique puisse enfin avoir la possibilité de se développer et l'IUT de Cocrio, etc. Enfin, on a investi plus rapidement pour déplacer des écoles non publiques au Havre, plutôt que de dire on se mobilise pour déplacer l'IUT et faire un IUT correspondant aux besoins des jeunes havrais. Et puis, je terminerai sur la question de comment le commerce va tenir. Et nous, on porte l'idée qu'il faut accompagner. Il faut accompagner les commerçants, il faut accompagner en termes d'animation, il faut accompagner en termes d'attractivité du centre-ville, il faut permettre aux gens de venir faire leurs courses le samedi, j'y reviens, avec des transports gratuits, parce que c'est important. Il faut écouter les commerçants quand ils vous disent ce stationnement-là, c'est handicapant pour notre activité. Il ne faut pas faire à la louche. Il faut faire du cas par cas. Ça veut dire qu'il faut écouter les gens. Écouter les gens, ce que vous n'avez pas su faire, quand on vous a expliqué que ce n'était pas forcément une bonne idée de faire Coty, en disant « Ah, mais vous allez faire les Halles déplacées à Coty, etc. », vous étiez toujours droit dans vos bottes en disant « Je sais ». Ben non, vous ne savez pas, parce que le centre-ville au Havre, il n'y en a pas. Et à un moment donné, vous ne le créerez pas artificiellement. Coty n'a pas généré d'ouverture de commerce sur la rue du Maréchal Joffre, etc. Ça n'a pas généré. Et si vous faites Coty le rond-point, enfin pour tous ceux qui sont havrais et qui ont connu gamin et tout ça, cette activité, moi j'ai connu le rond-point, ça grouillait de monde au rond-point, tellement il y avait de commerce, etc. Et je pouvais aller à pied jusqu'à l'hôtel de ville par Maréchal Joffre. Et j'avais du commerce sur toute la ligne. Alors on disait le Havre n'a pas de centre-ville. Et moi, quand j'étais lycéen, je disais le Havre a trois centres-villes et ils sont bien reliés.
Jean-Paul Lecoq, une réponse rapide s'il vous plaît d'Edouard Philippe avant qu'on puisse conclure.
Très simplement, rapide. Sur la ligne nouvelle Paris-Normandie, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut améliorer la ligne nouvelle. Cette ligne nouvelle, on se bat et c'est compliqué, c'est très cher, c'est redoutable.
Il y a ceux qui l'ont pas.
Et ceux qui ont le pouvoir, en 2018, ils ont sauvé la ligne en faisant en sorte que dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités, que vous avez dû voter d'ailleurs, il y ait bien la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et ceux qui ont le pouvoir, ils se sont battus avec d'autres en 2024 pour éviter que l'Île-de-France et le département des Yvelines, que l'Île-de-France et le département des Yvelines bloquent définitivement le projet. Donc la vérité, c'est qu'on va continuer à se battre sur ce projet. Et que au lieu de dire ça,
ce sont vos amis.
Il n'y aura jamais un train à une heure. Il n'y aura jamais un train à une heure.
Est-ce que c'est possible une heure?
Mais ça n'existe pas. Vous avez cité
le président de la République l'a dit pourtant.
Mais je sais que vous écoutez beaucoup les gens qui parlent de Neuilly. Mais la vérité, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de.
Monsieur Philippe, ça veut dire quoi cette façon de parler? Vous passez votre temps à me calomnier, mais vous habitez où?
Je vous calomnie pas du tout.
Vous habitez où, vous?
Je respecte beaucoup les gens qui viennent de Neuilly. J'habite au Square Saint-Roch.
Effectivement, vous avez un pied-à-terre ici, effectivement.
Non,
mais vous
n'avez
pas dans le même arrondissement de Paris.
Ça fait très longtemps que j'habite Square Saint-Roch.
Bien sûr.
Je vous assure, vous êtes où, vous?
Oui, mais moi je suis rue Jean-Jacques Rousseau.
Ah,
vous voyez?
Ok, super. On en reparlera, monsieur Keller. Mais indépendamment de ça, ce qui compte, c'est la ligne nouvelle Paris-Normandie. On doit continuer à se battre. Et la vérité, c'est que c'est pas l'un ou l'autre qui va se battre sur ce sujet. C'est tout le Havre. Et on ne sera puissant que si tout le Havre et Tourmont et tout Caen et toute la Normandie est capable de peser sur ce sujet.
Mais pour l'instant, ça n'a pas marché.
C'est pas du tout.
Ça
n'a
pas marché. Hein.
Ça avance lentement, trop lentement à mon goût.
Non, ça avance pas.
Non, ça n'est pas vrai. Ça avance trop lentement.
Ça avance pas du tout.
Et sur la centrale
regardez
thermique.
Les distances. Hein. Pourquoi tout le monde a un TGV sauf nous?
Mais monsieur Keller, je vois bien la tentation exceptionnelle de la baguette magique disant. Je connais tel ou tel et on va réussir à faire la ligne nouvelle en une heure. Moi, quand je parle au Havrais, je ne m'engage jamais sur des choses dont je pense que je ne peux pas les tenir.
Moi, c'est
et
pareil.
La vérité,
moi,
c'est que vous, Monsieur Keller,
moi,
êtes
pareil.
Incapable de tenir cet engagement. Mais, donc, vous avez le droit de dire que vous trouveriez ça mieux.
J'ai dit que je me
moi, je me bats pour faire en sorte
monsieur,
que...
Arrêtez de transformer les choses.
Moi, je me bats
arrêtez
pour
de transformer
terme,
de systématiquement.
Une nouvelle
vous voyez
que
vous devriez faire du covoiturage tous les deux.
Et ça veut dire se battre sérieusement et se battre avec beaucoup de détermination sur ce sujet
qui
est effectivement essentiel.
Il faut se battre effectivement. Malheureusement, ça n'a pas été fait jusqu'à présent.
Écoutez, messieurs, merci. On arrive à la fin. On arrive déjà pratiquement à 13h à la fin de ce débat. Merci en tout cas d'être venu. Merci à Édouard Philippe, à Franck Keller et à Jean-Paul Lecoq. Je rappelle que l'on vote dimanche pour le second tour de ces élections municipales. Et ce débat sera à retrouver en podcast sur notre site internet dès cet après-midi, donc tendanceouest.com. Et puis parmi les autres villes à voter ce dimanche, il y aura également Fécamp. Là aussi, il y aura une triangulaire entre David Roussel, le maire sortant d'hiver droite, Bénédicte Martin pour l'Union de la Gauche et Serge Girard pour le Rassemblement National. À rappeler qu'autour du Havre, les maires ont été élus dès le premier tour dimanche dernier. Jérôme Dubot à Montivilliers, Alban Bruno à Gonfreville, Tony Leprêtre à Harfleur ou encore Olivier Roche à Octeville. Je vous souhaite de passer une belle journée à notre écoute.